UMCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons parler de femmes extraordinaires. Nous allons parler de femmes qui ont marqué leur temps, qui ont marqué l'histoire, des femmes dont nous avons très peu parlé finalement à Parole de femmes. Et nous sommes avec un homme cette semaine pour pouvoir en parler. Le pasteur Franck Alexandre est de retour sur le plateau de Parole de femmes.
Bonjour.
Ça va, Franck ?
Ça va bien. Je suis content d'être avec vous, de passer ce moment-là.
Ouais, sans ta femme cette fois-ci.
Oui, cette fois-ci, non, elle est restée à Troyes dans l'Aube, parce qu'elle prend en charge aussi tout le travail d'une église que nous sommes en train d'implanter, Gospel Vision Center. Et donc là, elle m'a libérée pour venir vous retrouver.
Oh, mais merci beaucoup, merci. Liliana.
Et
pour, rappel, on avait fait, il y a plusieurs années maintenant, toute une série avec Franck et Liliana. Et on avait parlé des femmes, justement, dans le ministère. Elle nous avait un peu partagé son parcours. Et ce sont des émissions collector, j'ai envie de dire, parce que Liliana s'est très peu exprimée sur la scène publique au cours de ses presque 40 ans de ministère. Non, ça fait pas 40 ans.
Un peu plus de 30 ans
de ministère. Et donc, toi et ta femme êtes pasteur de l'église...
Gospel Vision Center.
Je me le répète depuis le début de l'émission. Gospel Vision Center.
C'est ça.
Et aussi, vous avez votre ministère depuis plus de 30 ans d'évangélisation, de croisade,
de livres. Les gens nous connaissent surtout.
Ouais, voilà.
Surtout avec les grandes missions d'évangélisation, puisqu'on est dans l'itinérance depuis de nombreuses années. On a eu le privilège de prêcher dans près de 50 pays. Et puis là, pendant le Covid... Bien, plus d'avions ne décollent, les églises ont tiré le rideau, on s'est retrouvés à la maison, et qu'est-ce qu'on a fait ? On a prié pendant plusieurs semaines, et le Seigneur nous a mis à cœur d'implanter une église, et c'est ce qui a démarré.
Mm-hmm. Et ce n'était pas la première fois, parce que vous aviez déjà...
Oui, on a vécu aussi.
À l'époque, vous avez déjà été pasteur.
Oui, on a fait des implantations déjà, on a participé à plusieurs implantations.
En tout cas... Plus de 30 années de ministère très riche, avec beaucoup de fruits. Et puis, Franck continue d'avancer, continue de porter du fruit. Puis, on est vraiment heureux de pouvoir t'avoir cette semaine. Et comme je le disais, Aurélie aussi, nous allons parler de femmes extraordinaires. Oui. Autre que toi, Aurélie, même si tu es absolument extraordinaire, mais de femmes de réveil.
Oui.
On parle souvent des revivalistes. Oui. Et puis, on connaît des grands noms, mais quelquefois plus masculins. Et cette semaine, on veut parler de trois femmes qui ont été des pionnières. Mmh. Alors, à toutes les femmes qui nous regardent, et pour nous aussi, sur ce plateau, pour Aurélie et moi, ces femmes ont été des femmes qui ont ouvert la voie, qui ont permis, à travers leur obéissance, qu'on puisse aussi faire ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on puisse accéder à différentes choses, différents services, mais aussi à pouvoir vivre le ministère, à pouvoir élargir, repousser les limites de la religion. Donc, la première femme dont on va parler cette semaine, ce sera Maria Woodworth. Dans quel sens, du coup ?
Maria Woodworth-Setter.
Maria Woodworth-Setter. On va l'appeler Maria. Et puis après... et puis dans la semaine, un peu plus tard, on parlera aussi de Aimé MacPherson. Et puis, pour terminer, on parlera de Catherine Kuhlman. Bon, la plupart d'entre vous, vous connaissez surtout Catherine Kuhlman.
Oui.
Mais vraiment, les deux premières femmes ont des histoires absolument extraordinaires. Vous allez sûrement découvrir et être surpris de voir ce que Dieu, ce que le Saint-Esprit a fait à travers ces femmes. Alors, on commence tout de suite, Franck, avec Maria. Maria. Il faut que je te laisse parler, Franck. Et juste avant, on va juste regarder Maria, une photo de Maria, une des rares photos d'ailleurs, où elle est ici en bleu, et puis où elle est aussi une photo devant un chapiteau où elle a rassemblé des milliers de personnes.
Exact. Oui, Maria Woodworth-Setter, canal de la puissance de Dieu. Quand je me suis converti en 1985, je regardais les livres qu'il y avait sur le comptoir de librairie de l'église et j'ai aperçu un petit livre un peu couleur fuchsia qui ne payait pas de mine. Et quand j'ai sorti ce petit ouvrage, j'ai vu le nom d'une femme et il était question de... Le titre, c'était, je crois, « Voici les signes ».
Mm-hmm. «
Voici les signes ». Et quand j'ai plongé mon regard à l'intérieur, j'ai découvert cette femme utilisée par la puissance du Saint-Esprit. Et pour moi, c'était une expérience saisissante parce que je me suis très vite rendu compte que le Seigneur, dans le domaine du revivalisme, voulait se servir autant des hommes que des femmes. Alors on veut encourager aujourd'hui les femmes qui nous écoutent et leur dire que le Saint-Esprit désire se servir en fait d'un canal. Il désire que nous soyons des canaux de la bénédiction. On ne peut pas évoquer le revivalisme sans évoquer Maria Woodworth-Setter. Quand on lit les archives du revivalisme, ici j'ai quelques perles ici dans cet ouvrage, dans mon carnet de notes sur les revivalistes, on se rend compte que des hommes ont été utilisés comme Wigglesworth, John Alexander Dowie, Evan Roberts, Joseph William Seymour, toutes ces grandes figures du pentecôtisme et du réveil, que ce soit le réveil d'Azusa ou le réveil du Pays de Galles, on voit aussi poindre ces femmes que Dieu a utilisées, non seulement pour des campagnes d'évangélisation, mais aussi pour des implantations d'églises.
Ouais.
Parce que bon nombre d'églises aux États-Unis comme au Canada ont été implantées par des femmes, et même en Afrique, sur toute la planète. Les femmes ont été utilisées pour proclamer l'Évangile, mais aussi pour implanter de nouvelles églises. Et Jésus lui-même nous donne une réponse face à, je crois, le scepticisme. Parce que le ministère des femmes a souvent fait face à la misogynie, mais aussi le scepticisme, la critique, l'opposition. Et Jésus nous donne une parole, et j'aimerais l'adresser à ceux qui nous écoutent. Jésus dit dans Jean 14, 11, « Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » En fait, l'histoire est têtue. J'aime beaucoup dire que l'histoire, elle est têtue. On peut dire tout ce qu'on veut contre quelqu'un. Mais quand on regarde le fruit d'un ministère, quand on commence à peser les fruits, on se rend compte que Dieu est dans l'affaire. Et dans le ministère de Maria Woodworth-Setter, Dieu était dans l'affaire. On a des exemples dans la Bible. On a Déborah.
Maria n'était pas la première.
On a Déborah.
Ouais.
On voit que le Seigneur se sert d'elle avec puissance. On a aussi, alors quelqu'un pourrait dire, oui, c'est l'Ancien Testament, c'est une figure peut-être isolée sous l'Ancienne Alliance, mais on a aussi cette femme qui s'appelle Anne, qui a 84 ans et qui se tient nuit et jour dans le temple et qui jeûne et qui prie. Et la Bible dit à son sujet qu'elle était prophétesse.
Ouais.
Donc elle était animée du Saint-Esprit. Ouais. Alors moi, j'ai eu des préjugés, bien entendu, comme les hommes en ont souvent.
Ah bon ?
Parce que j'ai évolué dans une organisation chrétienne où les femmes n'avaient pas forcément bonne presse dans le domaine de la prédication. Donc on grandit avec ce qu'on nous dit, ce que l'on entend, et on se forge après une idée sur le ministère des femmes. Mais le Seigneur a fait voler en éclats mes préjugés quand je me suis rendu en Argentine, en 1996, où j'ai eu ma première campagne là-bas à cette époque. Ensuite, je suis allé en Uruguay donc pour tenir toute une série, 3 semaines de mission. Et on allait de stade en stade et on a vu la gloire de Dieu se manifester sur la route. Mon coordinateur me dit, écoute, on va s'arrêter dans un petit village uruguayen. Là, tu verras, c'est un endroit très modeste, il y a un couple. Et on va se faire payer un maté. Le maté, c'est un peu la boisson locale. Alors, j'ai accepté d'y aller. Nous sommes entrés dans cette petite maison, très modeste, de la terre battue à même le sol. Et puis, il y avait une femme courbée, vraiment, très âgée, qui était là, avec un homme. C'était un couple d'anciens. Ils nous invitent à nous asseoir. Ils nous servent le maté, cette boisson traditionnelle uruguayenne. Et alors qu'on discute avec eux, mon coordinateur me glisse dans l'oreille, c'est moi. Il me dit, tu vois, cette femme, il me dit, c'est une apôtresse. Alors, moi, quand j'ai entendu ce mot, c'est une apôtresse, ma théologie...
C'est une imposture.
Ma théologie a pris un coup violent, tout à coup. J'essayais de me raccrocher à ce que je connaissais dans la Bible, prophétesse, oui, apôtresse, pas encore. Et là, je dis, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Et tout à coup, il me dit, mais tu sais, cette femme, elle a implanté 37 églises en Uruguay.
Wow.
Et quand j'ai entendu ça, je me suis repenti devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi les préjugés, les clichés, les stéréotypes que nous pouvons avoir à l'égard des femmes que Dieu utilise dans la puissance du Saint-Esprit. Dieu veut se servir vraiment des femmes, comme il l'a fait aussi pour Maria, dans une époque où les ministères étaient vraiment florissants. On est à la fin du 19e, il y a déjà des rencontres qui se déroulent à Keswick, des rencontres de revivalisme. On cherche la seconde expérience, en fait, une seconde expérience plus forte. d'une onction du Saint-Esprit. Et des gens se rassemblent comme Hudson Taylor, il y a John Alexander Dewey et bien d'autres, et même Wigglesworth aussi se rendent dans ces rencontres. Ils prient, ils cherchent ce qu'ils appellent le baptême dans le Saint-Esprit. Mm-hmm. Ils savent qu'il y a une expérience à vivre, mais laquelle et comment, ça, ils ne le savent pas encore. Ils savent que dans les Actes des Apôtres, les apôtres ont vécu cette effusion, ils ont parlé en d'autres langues et ils avaient un ministère de puissance. Mm-hmm. Et à cette époque-là, il y a beaucoup de guérisons parce qu'on croit à cette théologie de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Mm-hmm. Donc, si on est croyant, en fait, on doit être en bonne santé morale, donc spirituelle, mais aussi physique. Ce qui veut dire que quand on prie pour un chrétien qui est malade, ce chrétien doit être guéri. Mm-hmm. Donc, vous voyez la foi. C'était des mouvements de la foi. Et Maria Woodworth-Setter évolue dans ce mouvement avec John Alexander Dewey, à tel point que même parfois, John Alexander Dewey laissait dire qu'il ne prierait pour quelqu'un qu'à la seule condition où la personne était née de nouveau. Mm-hmm. Donc, vous voyez, ils avaient des façons d'approcher les choses parfois qui étaient chargées de beaucoup de clichés, beaucoup d'a priori. Et ça encourageait beaucoup d'hypocrisie aussi, parce que quand on priait pour un malade et qu'il n'était pas guéri, ça laissait entendre chez ce chrétien qu'il avait peut-être il avait peut-être un problème spirituel. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de critiques les uns envers les autres, ce qui fait que les gens aussi finissaient par cacher leur maladie et leur souffrance. Oh. Ils avaient besoin d'entrer dans la dispensation de la grâce et vraiment la découvrir dans sa profondeur. Et Maria Woodworth-Setter évolue à cette époque avec Dewey. Dewey a un ministère extraordinaire. Mm-hmm. Un ministère de puissance, mais il s'opposera à Maria Woodworth-Setter parce que, tout simplement, c'est une femme. Mais elle va persévérer. On sait qu'elle est née en 1844 dans la ville de Lisbonne. Ce n'est pas au Portugal, c'est dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Elle va faire l'expérience de la nouvelle naissance alors qu'elle n'est âgée que de 13 ans. Wow. À 13 ans, elle va donner son cœur au Seigneur. Wow. Et on a des exemples dans l'histoire chrétienne de puissants ministères qui se sont tournés très jeunes vers Jésus. Je pense à Billy Graham, qui a donné sa vie à l'âge de 8 ans, donc très jeune. Wigglesworth aussi, Corrie ten Boom, racontent aussi dans leur témoignage qu'ils se sont convertis alors qu'ils n'étaient que de tout jeunes enfants.
Ouais, donc, quand on entend des choses comme ça, sincèrement, j'ai trop à cœur maintenant d'interpeller les jeunes, en fait, et les jeunes filles. Je pense spécifiquement aux jeunes filles, parce que quand on voit, on entend ces histoires-là, on voit que le fait qu'elles soient des femmes, déjà, c'était un défi pour elles. Et là, on voit que le Seigneur les a appelées comme elles, 13 ans, mais super tôt quand même. Et j'aimerais vous dire que si vous nous écoutez aujourd'hui, vous êtes peut-être une jeune fille qui est là et vous sentez comme ça à l'intérieur de vous qu'il y a des choses qui brûlent. Ne laissez pas ces choses dormir, en fait. C'est le temps de se positionner et de dire « Oui, Seigneur, je veux répondre à cet appel que tu as mis dans mon cœur. » Et si vous êtes peut-être plus âgée et on est en train de parler de cette histoire, vous vous dites « Mais peut-être moi, j'avais reçu l'appel quand j'avais 13 ans, quand j'étais plus jeune. » Et que j'ai pas foncé, en fait. Mais aujourd'hui, c'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, je veux ranimer l'appel que tu as mis en moi pour pouvoir marcher à la lumière de ces modèles.
Et d'ailleurs, Maria, 13 ans, accepte le Seigneur. Et très tôt aussi, elle ressent l'appel pour pouvoir le servir.
C'est ça. Et c'est important pour tous les enfants qui nous écoutent, les jeunes gens et pour les parents. Vraiment d'encourager vos enfants à se tourner vers le Seigneur, à prendre soin de leur vie spirituelle. Exemple, nous sommes en train d'implanter une église actuellement et nous avons une famille qui a été contactée par deux jeunes de notre église. Ils leur ont parlé de Jésus, ils ont partagé les problèmes qu'ils souffrent dans leur maison. Phénomènes paranormaux, déplacement d'objets, les poltergeists, donc les objets qui se déplacent dans la maison, apparition même de spectres, cauchemars la nuit, des bruits dans la maison. Et les deux jeunes me parlent de cette situation. Donc je leur ai dit, écoutez, c'était le dimanche, alors je leur ai dit, écoutez, allez prier dans la maison. Moi, je garde mon téléphone toute la journée avec moi. Si vous avez un problème, vous m'appelez, je viendrai vous aider. Mais vous allez y aller, parce que Jésus a dit que nous devons faire des disciples. C'est important que les membres de nos assemblées soient vraiment aussi empreints de la culture du revivalisme et qu'ils puissent aussi réaliser qu'ils ont cette puissance. Donc les jeunes y sont allés. Je leur ai donné un conseil, vous lirez psaume 91 dans toutes les pièces de la maison. Vous n'hurlez pas, vous ne criez pas, vous chassez les démons tranquillement. Vous dites, démons, ce n'est pas votre place, c'est terminé, vous quittez cette maison appartient à Jésus. Vous faites ça. Ils l'ont fait. La nuit, plus de phénomènes. Wow. Le culte, le dimanche suivant, cette famille est venue au culte, elle s'est donnée au Seigneur. La femme a été baptisée du Saint-Esprit. La petite fille de 10 ans, donc leur fille, voit que nous prions pour les malades et que le Seigneur manifeste sa gloire par des guérisons. Qu'est-ce qu'elle fait ? À l'école, elle a sa petite copine qui a une main fracturée. Mmh. Donc elle porte un plâtre, elle n'arrive plus à bouger ses doigts. Alors elle lui dit, veux-tu que je prie pour toi ? Elle n'a que 10 ans. Elle prie pour elle et tout à coup, la main a été guérie par la puissance de Dieu. De retour à la maison, toute heureuse, elle dit cela à son père. Et son père lui dit, écoute, prie pour moi parce que ça fait une quinzaine de jours, j'ai mal dans ma poitrine et tu as eu une guérison, prie pour moi, tu dois avoir la foi pour la guérison. Alors la fillette de 10 ans pose sa main sur la poitrine de son père, elle prie et le soir le père réalise qu'il n'a plus aucune douleur et pendant plusieurs mois, il constate qu'il est en pleine santé. Dieu manifeste sa gloire par le biais des enfants. Et donc Maria, elle découvre le Seigneur dans sa jeunesse. Mais elle va vivre quelques drames. Donc un premier, c'est celui de la mort de son père. Elle vit à la campagne, ses parents sont fermiers. Et elle va perdre son père qui se fait tuer alors qu'il travaille au champ. Et face à cette tragédie, donc, elle est contrainte d'abandonner ses études, de rentrer chez elle et puis de s'occuper donc, de sa famille. Alors elle va tourner le dos à cet appel qui est là. Donc il y aura toujours quelque chose pour l'empêcher d'entrer dans son appel. Toujours de l'opposition. Sans cesse des tuiles, sans cesse des problèmes. Et puis... l'ennemi va tenter de la détourner en jouant sur ses émotions avec une relation passionnelle avec un dénommé Woodworth, cet homme qui était blessé pendant la guerre civile, qui avait agité le pays à l'époque. Mais elle va vivre une grande passion avec lui, elle va décider de se marier avec cet ancien soldat, ils vont fonder une famille, mais elle va connaître cette grâce de devenir maman, elle va avoir 6 enfants à cette époque, mais c'est une femme à la maison. Elle est la femme qui est à la maison, elle s'occupe de toutes les affaires domestiques, mais aussi de l'éducation des enfants. Et elle va vivre aussi une véritable désillusion. Parce qu'au fond de son cœur, il y a toujours cet appel à servir Dieu. Mais cet appel est étouffé par cet homme qui ne voit pas chez elle. Cet appel que Dieu lui a adressé. Alors elle souffre énormément, elle se sent aussi extrêmement frustrée et son rôle de femme ne parvient pas à combler son cœur. Alors l'appel va se consumer petit à petit et va comme s'éteindre en fait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons des promesses dans la parole de Dieu où Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Mais elle va vivre aussi d'autres chagrins, d'autres souffrances. Elle va perdre, et à la suite d'une épidémie,
et pas des moindres,
hein. 5 de ses 6 enfants. Ouais. 5 de ses 6 enfants. Et on se demande comment une femme peut se relever d'une telle épreuve, d'une telle tragédie. Aujourd'hui, on vit une époque d'épidémie. Il y a des traitements, il y a des soins, nous avons des hôpitaux, des médecins, des spécialistes. Mais imaginons en quelque sorte cette époque où on n'avait aucune solution. Aucun remède. Et elle se trouve dans cette situation où elle est brisée. Alors elle va trouver refuge dans la parole de Dieu. Et si vous avez une situation dans votre vie où vous avez le sentiment que tout s'acharne, en fait, contre l'appel que vous avez dans votre cœur, je vous invite vraiment à prendre soin de votre foi et à faire comme Maria l'a fait. Elle s'est occupée de nourrir sa foi. Et c'est en lisant la parole de Dieu que son attention va être retenue par un passage des Écritures dans Joël chapitre 2, versets 28 à 29, où elle va lire ceci. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles, prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes. » Et bien sûr, elle voit le terme « servante ». Elle se dit donc, c'est aussi pour moi. Ouais. Nous sommes sous la dispensation de la grâce où le Saint-Esprit appelle qui il veut et il donne l'onction à qui il veut. Alors, elle se rend compte que Dieu va pouvoir se servir d'elle et qu'elle va pouvoir être le témoin de la manifestation de la gloire de Dieu. Elle se tourne vers le conseil de Dieu, elle peut lire encore d'autres passages, comme celui de Romains 11, verset 29, où il est écrit que Dieu ne se repent pas de ses dons, ni de son appel. Matthieu 12, verset 20, « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Donc la parole de Dieu va l'interpeller, mais en même temps, elle va connaître une visitation d'ange. C'est quand même extraordinaire. Des anges qui nous visitent. Je ne sais pas si vous croyez aux anges, mais la Bible en parle et nous voyons plusieurs visitations dans la parole de Dieu où les anges viennent et ils sont là pour apporter leur aide à ceux qui ont la charge de proclamer l'Évangile. Je pense à la famille dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils ont vécu aussi une expérience assez étonnante, puisque cette famille a été attirée dans le royaume de Dieu par la manifestation du Saint-Esprit. Et alors que je mangeais chez eux il y a quelques jours, on discutait à table, et là, la dame, je regarde par la fenêtre et je vois leur véhicule, elle me dit « c'est notre voiture ». Je dis « ah bon, et alors ?» Ça va, ça roule bien. Elle me dit bah, « écoutez, depuis un an, elle était en panne sur le parking. Depuis un an. Waouh, et maintenant ça marche. » Je dis, elle me dit « oui, mon mari connaît bien la mécanique, mais depuis un an, il essayait de la dépanner, mais ça ne marchait pas. Ouais. Alors il a dépensé de l'argent pour acheter des pièces. À chaque fois qu'il tournait la clé, ça ne fonctionnait pas. » Alors elle dit « j'en avais assez, alors j'ai prié Dieu. » La femme de maison dit « j'ai prié. » J'ai prié, j'ai dit « Seigneur, secours mon mari, aide-le. » Pendant plus d'une quinzaine de jours, elle a prié Dieu, elle a demandé au Seigneur son aide. Et pendant la nuit, elle a reçu un songe. Et dans un songe, elle a vu un messager venir la voir. Mm-hmm. Peut-être était-ce un ange technicien, j'en sais rien, mécanicien. Mais il lui dit, voilà où est le problème. Dans la voiture, il y a un endroit où il y a plusieurs câbles. L'un de ces câbles est rompu. Oh. Dis à ton mari d'aller dans cet endroit-là, de réparer le câble et le moteur va redémarrer. Mm-hmm. Alors elle n'y connaît rien en mécanique. Alors elle dit à son mari, voilà, c'est comme ça, c'est à tel endroit et c'est ça. Le mari... Donc, se rend dans le coffre avant de la voiture, il ouvre, il regarde et il découvre que le câble est bien rompu. Wow. Il le remplace, il tourne la clé et cette voiture qui était en panne depuis un an s'est mise à fonctionner. Et suite à une vision, suite à une révélation, Dieu veut répandre son esprit vraiment.
Et c'était quoi la vision de Marie qu'elle a eue?
Elle a vu un ange. Donc les anges viennent lui rendre visite. Et là, elle va voir. C'est pas le Canada qu'elle aperçoit, mais ça aurait pu être le Canada pratiquement, parce qu'elle voit des prairies, elle voit des lacs, elle voit des forêts, elle voit des rivières. Mais elle voit aussi quelque chose de magnifique. Elle voit des champs de blé qui ondulent sous le vent. Mm-hmm. J'ai vécu la même expérience en tant que jeune pasteur. Mm. J'avais un formateur qui avait une dimension de prophète. Et puis chaque matin, quand je quittais le travail, j'allais le rencontrer chez lui. Et puis, dans un petit espace, il avait un cagibi où il avait une petite table, quelques livres de revivalistes, sa Bible ouverte. Et puis là, on priait. À chaque fois, il priait pour moi afin que Dieu bénisse mon service, le jeune serviteur que j'étais. Et puis là, ce matin-là, nous sommes en train de prier ensemble et je suis ravi en extase. Mmh. Et là, j'ai une vision, je vois des champs qui ondulent sous le vent à perte de vue. Et je vois un homme vêtu de blanc qui vient et qui jette de la semence, il a un sac de lin, il a les cheveux blancs comme la laine, il est magnifique, il est glorieux. Il jette la semence au vent, le vent transporte la semence et partout où elle tombe, la moisson est extraordinaire. Mmh. Moi, je suis ravi en extase. Et je suis dans le silence. Et tout à coup, mon pasteur me dit, voilà ce que tu vois. Et il me décrit tout ce que je suis en train d'apercevoir dans l'esprit. Ah. Et là, il m'a dit, tends tes mains, j'ai tendu mes mains. Il m'a dit, Dieu te donne les outils pour le réveil. Ferme tes mains, tu les as maintenant avec toi. Mm-hmm. Dieu veut faire des choses glorieuses et il veut que nous soyons marqués par l'onction du Saint-Esprit, parce que le défi d'un ministère, c'est un défi qui réclame une onction surnaturelle, une puissance surnaturelle. La réalité du surnaturel, nous l'avons dans la parole de Dieu. Je pense à Saul de Tarse, mm-hmm. qui lui aussi a eu cette vision sur le chemin de Damas. Je pense mm-hmm. aussi à Philippe, l'évangéliste. Mm-hmm. Quand il œuvre, il est mu par le Saint-Esprit. Un ange intervient, il entend la voix de Dieu, l'Esprit lui dit de s'approcher. Je pense à Pierre aussi, quand il est mandaté pour aller chez Corneille, ou encore Paul, dans la région de Macédoine, il reçoit une vision. Un ministère, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire simplement parce qu'on a décroché un diplôme en faculté de théologie. Mm-hmm. Ce n'est pas parce qu'on a un col blanc qu'on a une onction. Mm-hmm. On a besoin vraiment de la marque qui vient du ciel, de la puissance qui vient de Dieu. Et Maria va céder à l'appel du Saint-Esprit.
Finalement.
Un appel de plus en plus fort. Et des phénomènes vont commencer à se produire quand elle prêche, où les gens l'écoutent, des réactions à l'annonce du message de l'Évangile, des réactions très fortes, des réactions même physiques, où des membres dans l'assistance se lèvent brutalement, partent en courant, terrorisés. Mmh. D'autres s'effondrent à terre, saisis par un esprit de repentance. Et on se déplace de partout pour venir la voir, mais aussi venir s'opposer à elle. Dans un rapport, elle écrit « 15 personnes répondirent à l'appel implorant la grâce de Dieu. Des hommes et des femmes tombèrent à terre comme morts. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Mmh, wow. J'ai constaté que c'était le travail de Dieu, mais je ne savais pas comment l'expliquer. Mmh. » Alors des signes sont déjà constatés, des signes qui peuvent se vérifier, que l'on peut vérifier dans la vie de bien des évangélistes. On le voit dans notre ministère, mais je pense aussi en 96, quand j'ai vu le ministère de Carlos Anacondia.
Il s'est passé beaucoup de choses en 96.
Oui, on a fait. Dieu nous a envoyés dans bien des endroits, en fait. Mm-hmm. Et Dieu nous a mis face à ce ministère où là, nous avons vu la puissance de Dieu descendre sur la foule. Les gens partaient en courant, comme dans la. Ils ne supportaient pas cette onction qui saturait le lieu. Mm-hmm. Ils ne pouvaient pas la supporter. Et d'autres étaient terrassés par la puissance du Saint-Esprit. Mm-hmm. Et pour nous, c'était aussi une forme de révélation sur ce que Dieu veut faire au travers d'un ministère. Nous avons besoin de cette onction pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ces phénomènes ont été constatés chez, je pense à Jonathan Edwards, mm-hmm. Charles Finney, George Whitfield, Wigglesworth, William Seymour. Tous ces ministères avaient des manifestations surnaturelles qui les accompagnaient avec des émotions. On parle d'émotions extraordinaires, accompagnées de démonstrations physiques, de chagrin, d'amour, de joie, de larmes, de tremblements, de gémissements. En fait, ils analysaient ce qu'ils vivaient parce qu'ils le découvraient. De cris, de souffrances dans le corps, de défaillance de la force physique, de crises, de soubresauts et de convulsions. La puissance de Dieu était à l'œuvre. Mais nous le voyons aussi déjà avec dans la parole de Dieu, dans Matthieu 17:6, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. D'autres sont sidérés. Dans Jean 18, verset 6, lorsque Jésus leur eut dit « c'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Mm-hmm. Lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre, des phénomènes glorieux peuvent se produire.
Mm-hmm. Et comment tu as dit qu'il y avait à la fois les signes qui se sont produits dès le début, mais en même temps aussi l'opposition s'est levée. Ouais. Et ça a été malheureusement, deux choses qui ont accompagné le ministère de Maria tout au long de sa vie. Et on veut terminer cette émission en priant pour vous, parce que comme aussi Aurélie l'a dit, plusieurs d'entre vous, vous êtes des jeunes femmes et vous avez reçu cet appel, et dire oui à cet appel, c'est dire non à beaucoup d'autres choses, à des rêves, des ambitions humaines. Et aujourd'hui, on veut prier avec vous pour que vous puissiez, comme Maria, céder à cet appel, de ne pas attendre que la tragédie frappe, que les contretemps arrivent, et puis que des années passent finalement. Jésus revient bientôt, c'est le temps de s'engager pleinement pour le royaume de Dieu et de dire oui à l'appel. Amen. Je vais te laisser prier.
Amen. Oui, Seigneur, répands ton esprit. Envoie ton Saint-Esprit dans les foyers, dans les maisons, dans les cœurs. Nous te louons, Seigneur, parce que c'est toi qui appelles, c'est toi qui équipes, c'est toi qui dirige, c'est toi qui envoie. Et tu répands l'onction du Saint-Esprit et tu accordes les dons spirituels en fonction de la nature du ministère auquel tu appelles une personne. Je te loue pour les ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs, mais aussi pour la grande diversité de ministères. Merci de qualifier, parce que nous savons que nul ne peut faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Alors nous te prions, Seigneur, de nous revêtir et de revêtir tous ceux qui nous écoutent de cette onction magnifique et de libérer les dons, comme tu l'as fait dans la vie de Maria qui a été portée par le don de foi, qui a su répondre finalement à son appel, qui a su entrer en dépit des oppositions, en dépit des combats, en dépit des critiques, en dépit des persécutions, en dépit de toute la misogynie dont elle était victime, elle a su répondre et elle a avancé, elle a vu ta gloire se manifester et tu as confirmé sa parole. Confirme les appels de ceux que tu veux conduire dans ta moisson. Amen.
Amen. Amen. Merci, merci Franck, merci Aurélie. Merci beaucoup. Et demain, on va continuer de parler de Maria et de son ministère, comment Dieu l'a utilisée, comment Dieu l'a accompagnée avec des signes extraordinaires, le fruit qu'elle a pu porter. Alors, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.